Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez la bienvenue à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Votre émission Santé pour tous marque un arrêt aujourd'hui sur le cancer. En posture d'invité pour en parler, nous recevrons le docteur Michel Barbara Ngono, médecin généraliste en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Grâce à son expertise, nous allons décrypter cette pathologie silencieuse dont les manifestations apparaissent souvent à un stade avancé. La mise en onde de cette émission est assurée par Maxino à la technique, Nicole Massaï à la réalisation, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Installez-vous confortablement, Santé pour tous, ça démarre dans une fraction de seconde. Chers auditeurs, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé pour tous sur les ondes de Radio Serré, Volcan FM. À l'origine de près de 10 millions de décès en 2020, soit presque un décès sur six, le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Le terme cancer, également connu sous le nom de néoplasme ou de tumeur maligne, englobe un vaste groupe de maladies qui peuvent apparaître dans presque tous les organes ou tissus du corps lorsque des cellules anormales se développent de manière incontrôlée et se répandent au-delà de leurs limites habituelles pour envahir des régions voisines du corps et ou se propager à d'autres organes. Les cancers du poumon, de la prostate, colorectal, de l'estomac et du foie sont les types de cancers les plus courants chez les hommes, tandis que les femmes sont le plus souvent atteintes des cancers du sein, du col de l'utérus, colorectal, du poumon et de la thyroïde. Le fardeau du cancer continue de s'alourdir à l'échelle mondiale, exerçant une énorme pression physique, émotionnelle et financière sur des personnes, des familles et des communautés, ainsi que sur les systèmes de santé. Dans notre pays, où plus de 15 700 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année, le système de santé n'est pas bien préparé à gérer ce fardeau et beaucoup de patients atteints de cancer n'ont pas accès à un diagnostic et à un traitement de qualité en temps utile. A contrario, dans les pays où les systèmes de santé sont solides, de nombreux cancers obtiennent de meilleurs taux de survie grâce à un dépistage précoce accessible, à un traitement de qualité et aux soins proposés aux patients. Cela est d'autant plus significatif car le cancer a plus de chances d'être traité efficacement lorsqu'il est dépisté à un stade précoce, ce qui se traduit par une plus grande probabilité de survie ainsi que par une réduction de la morbidité et du coût du traitement. En l'état actuel de l'évolution de la recherche sur le cancer, il existe plusieurs options de traitement parmi lesquelles la chirurgie, les médicaments anticancéreux et ou la radiothérapie, administrés en fonction du type de tumeur, du stade du cancer et des facteurs cliniques. Mais le problème demeure celui de l'accessibilité à ces traitements, notamment pour les couches sociales démunies et défavorisées. Ici, chez nous, le terme cancer est très souvent synonyme de mort certaine, ce qui en réalité n'est pas le cas. Le cancer est certes une maladie mortelle, mais les chances de guérison sont réelles. Il importe donc de déconstruire toutes les idées reçues et les désinformations autour du cancer, afin de vous donner des pistes d'action et de solutions pour vous et vos proches. C'est à cette tâche que nous allons nous atteler au cours de cette émission, avec le précieux concours de notre invité. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter cet élément dans lequel certains habitants de la cité capitale partagent avec nous leurs connaissances sur le cancer.
Bon, selon moi, le cancer, c'est une maladie qui touche beaucoup plus la peau. Le cancer est causé beaucoup plus par des travaux forcés. Quand tu fais des travaux beaucoup plus qui sont forcés, qui dépassent la capacité, la force que tu as, ça cause de cancer. Le cancer, on peut l'éviter bel et bien. Bon, comme je disais que ça a été causé par les travaux forcés. Selon moi, ce que je vois, ça a été beaucoup plus causé par les travaux forcés. Donc, pour l'éviter, il faut éviter les charges qui sont lourdes. Donc, qui peuvent causer cela. Donc, ce qui te dépasse, la charge qui est lourde, là, il faut l'éviter. Bon, il y a le cancer de poumon, que je connais est causé beaucoup plus par les travaux forcés que je disais tantôt. Il y a aussi le cancer de sein. Mm-hmm. Donc le cancer de sein est causé beaucoup plus par le mauvais suivi, l'entretien de l'organisme. Beaucoup plus les filles qui n'entretiennent pas beaucoup leur organisme. Je prends un exemple comme leur soutien-gorge. Donc leur soutien, quand une fille n'arrive pas bel et bien à mettre ce qui est à l'intérieur de lui au propre, ça cause du cancer. Donc la saleté qui est cause de ça. On peut guérir normalement du cancer. En allant à l'hôpital, dans les hôpitaux, faire des échographies, savoir quelle est cause de cette maladie et suivre normalement le traitement que le médecin a prescrit. Les tradis praticiens ne guérissent pas totalement pour un temps seulement que ça va se manifester. Ils ne guérissent pas totalement le cancer. Pour un temps seulement, ça va revenir. Merci.
D'après moi, je dirais que le cancer est une maladie auto-immune. Je ne connais pas exactement la cause. Ouais. Plusieurs types de cancers. Il y a par exemple le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer même du cerveau, le cancer de la peau. Oui. Déjà, ce qu'on dit à l'hôpital ou bien dans les médias, il faut constamment se palper les seins. S'il y a une boule dans le sein ou alors si la peau du sein a changé, il faudrait immédiatement se rendre à l'hôpital. Non, on n'est pas mort quand on a le cancer. On guérit du cancer quand c'est dans les débuts qu'on découvre, oui. Mais à un certain stade-là, je ne crois pas que l'on guérit. Il faut déjà faire un dépistage à l'hôpital parce que physiquement, comme ça, on ne peut pas savoir qu'on a un cancer. Ils peuvent vivre normalement. S'ils sont pris en charge, oui, par peut-être les médecins, oui, là, oui. Pour éviter le cancer, déjà, il faut faire du sport. Il faut généralement faire des dépistages. Comme pour le col de l'utérus, je sais que certaines infections déjà causent le cancer du col de l'utérus. Alors, il faudrait se faire dépister constamment, oui, pour éviter ça aussi. Merci.
Bon, le cancer, c'est une maladie où les cellules se multiplient anormalement dans l'organisme. Bon, c'est-à-dire se divisent de façon anormale dans l'organisme et détruisent les cellules normales. Bon, le cancer peut être causé par des facteurs génétiques et environnementaux, comme la nourriture, la cigarette, la boisson, l'alcool, tout ça. Bon, il y a plusieurs types de cancers. Nous avons le cancer de larynx, donc de la gorge, de la bouche, pardon. Nous avons le cancer de sein, du col de l'utérus. Il y a la prostate qui est aussi un type de cancer. Il y a aussi celui de l'anus qui est causé par l'hémorroïde, quoi. Bon, le cancer ne se soigne pas. C'est juste un apport thérapeutique, on peut dire. Donc, pour soulager juste le patient, oui. Mais il va toujours finir par mourir par cette maladie. Ceux qui ont le cancer peuvent vivre normalement, mais il y a certaines zones, quand c'est déjà touché, ils ne peuvent plus avoir la vie normale qu'ils avaient avant. Pour éviter le cancer, il y a plusieurs méthodes, c'est-à-dire dont la méthode qui est préventive, et comme par exemple le cancer de sein, que la femme peut elle-même diagnostiquer en palpant ses seins pour voir s'il y a une cellule souche qui est anormale, qui se trouve au niveau de son sein. Et il y a une méthode médicale, c'est-à-dire aller faire le dépistage à l'hôpital. Pour ceux qui consomment trop le tabac, ils doivent réduire, ne plus consommer. Ceux qui consomment l'alcool, ils doivent aussi cesser de boire l'alcool. Un peu, c'est qui cause, quoi. Il y a aussi la pratique aussi du sport, qui limite aussi la survenue du cancer.
Fidèle auditeur de Radio Serré, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire, dans lequel nous parlons aujourd'hui du cancer. Nous remercions ces auditeurs qui ont bien voulu partager avec nous leurs connaissances sur cette maladie. Pour approfondir le sujet, accueillons à présent notre invité, le docteur Michel Barbarangono, médecin généraliste. Docteur Michel Barbarangono, bienvenue sur nos antennes.
Merci.
Alors docteur, aujourd'hui nous allons parler essentiellement du cancer. Alors c'est quoi le cancer?
Merci vraiment de me permettre d'aborder ce sujet aujourd'hui. Le cancer, il faut le rappeler, d'un point de vue épidémiologique, c'est une maladie émergente qui fait partie des cinq premières causes de mortalité dans le monde. Donc, c'est quoi le cancer? Pour expliquer ce que c'est que le cancer, de manière grosso modo, vous devez retenir que l'organisme est constitué des organes. Et chaque organe est subdivisé en deux compartiments, s'il faut dire ainsi. Nous avons une couche de cellules que l'on appelle l'épithélium. Et en dessus, tout autour, nous avons un tissu de soutien que l'on appelle le tissu conjonctif. Et maintenant, l'épithélium est constitué d'un ensemble de cellules bien coordonnées dont la division, la multiplication et le fonctionnement s'effectuent sous la coordination de l'organisme. Maintenant, lorsque ces cellules sont exposées à certains facteurs de risque que l'on appelle des facteurs de risque cancérigènes, ces cellules peuvent être endommagées. Et le plus souvent, ces dommages sont corrigés naturellement par l'organisme. Mais il peut arriver que ces dommages ne soient pas corrigés et la cellule sort du contrôle de l'organisme et devient une cellule cancérigène. C'est ça le cancer. Elle finit par se multiplier, par attaquer progressivement les organes de voisinage et cliniquement peut être visible. Donc voilà, résumé ce que c'est que le cancer.
Alors généralement, on a tendance à associer le cancer à des tumeurs, à des boules. Est-ce que c'est bien une conception qui est juste ou alors elle est erronée?
Non, elle n'est pas erronée. En fait, tout dépend de l'organe atteint. Vous devez simplement retenir qu'il existe des cancers qui touchent des organes solides et il existe des cancers qui touchent le sang. Donc, en fonction du tissu atteint, l'expression clinique sera différente. Donc, lorsque l'on a, par exemple, le tissu conjonctif qui est touché, en ce moment, on parle de sarcome. Et les sarcomes, le plus souvent, sont des cancers solides. Lorsque l'épithélium est touché, en ce moment-là, des carcinomes qui aussi peuvent être des tissus solides, comme c'est le cas, par exemple, du cancer de la peau. Mais si, par exemple, on a la moelle osseuse qui est atteinte, en ce moment, on parle de leucémie. Donc, la nature du cancer dépend du type du tissu atteint.
Parlant justement, docteur, de nature de cancer, quels sont les différents types de cancers qu'on recense?
Ok, les différents types de cancers, je viens brièvement de les résumer, mais je vais encore me répéter. Nous avons en premier lieu les carcinomes, qui sont des cancers dus à l'atteinte des tissus épithéliaux. En deuxième lieu, nous avons les tissus conjonctifs qui peuvent être atteints. En ce moment, on parle de sarcome. Et troisièmement, nous pouvons avoir l'atteinte de la moelle osseuse. En ce moment, on parle de leucémie. On peut avoir l'atteinte des ganglions lymphatiques. En ce moment, on parle de lymphome. Mais il peut avoir une association de ces différents types. On peut se retrouver en face d'un adénocarcinome, par exemple.
Alors, dans la conception ou dans l'imagerie populaire, on entend souvent des gens parler de cancer du sein, cancer du poumon. Bref, associer le mot cancer à un organe. Est-ce qu'on peut avoir de manière ramassée comme ça les différents organes qui sont le plus susceptibles justement de manifester un cancer?
Ok, c'est une question très intéressante. Effectivement, tout organe, hein, tout tissu peut, avec le temps, devenir un tissu cancérigène. Effectivement, nous avons dans notre localité, dans notre région, le cancer du sein, s'il faut le dire ainsi, est un cancer très fréquent, surtout chez la femme, et qui le plus souvent se manifeste par la présence des boules qu'elle peut constater lors du palpé de son sein. Le cancer du poumon, comme vous venez l'évoquer, est aussi fréquent dans notre contexte. Pourquoi? Parce que le facteur de risque est présent, notamment le tabagisme. Bref, tout organe est susceptible de développer le cancer. Mais retenez déjà que les cancers les plus fréquents dans notre contexte retrouvés sont des cancers tels que le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus ou alors les cancers digestifs qui sont fréquents et même les lymphomes que nous retrouvons dans la population pédiatrique.
Alors, docteur, dites-nous, ici, dans le cadre de votre travail, dans vos consultations, vous recevez en moyenne combien de patients ayant ces problèmes de cancer par mois ou alors par an?
Bon, c'est vrai que là, présentement, dans ma tête, je n'ai pas un chiffre exact, mais de plus en plus, nous recevons des patients avec les cancers. Donc, s'il faut estimer comme ça, de manière empirique, nous sommes au minimum à 10 cas que nous pouvons diagnostiqué par mois ou plus.
Alors, la question, la fameuse question, c'est tellement que tout le monde attend. Qu'est-ce qui cause le cancer? Quelles sont les causes du cancer?
Donc, les causes du cancer peuvent être multiples. Je préfère parler plutôt d'abord des facteurs de risque de cancer. On a en premier lieu des facteurs de risque héréditaires ou génétiques. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui naissent avec des anomalies cellulaires qui font qu'elles sont incapables de répondre à des dommages causés à leurs cellules et développent facilement les cancers. C'est le cas de certains cancers du sein. Deuxièmement, il y a des facteurs environnementaux. Ça veut dire que l'individu, il est normal, mais il est exposé à des événements, à des situations. Il est exposé à des substances cancérigènes qui le prédisposent à développer des cancers ou qui peuvent donner directement le cancer. Je vais aller plus loin pour être plus explicite. Je prends le cas du tabac, par exemple. Les personnes qui fument beaucoup pendant de nombreuses années s'exposent à certains cancers, comme par exemple le cancer du poumon ou alors le cancer du caveau. Okay? Des personnes qui boivent beaucoup d'alcool dans notre contexte, nous avons le bilbil qui est beaucoup consommé, le harki et même la bière. Les patients qui boivent beaucoup d'alcool s'exposent à faire facilement les cancers du foie, ou alors des patients hépatants qui sont porteurs des hépatites virales B ou C sont à haut risque de développer le cancer du foie. Donc voilà, de manière résumée, que vous pouvez retenir.
Vous avez évoqué deux principaux groupes de causes. Vous avez dit les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Dans le facteur environnemental, est-ce qu'il y a également le facteur alimentation?
Oui, le facteur alimentation est évoqué dans la physiopathologie de certains cancers, comme par exemple les cancers digestifs. Notamment une alimentation pauvre en fibres prédispose les patients ultérieurement à développer le cancer du tube digestif. Mais je voulais, avec votre permission, parler du cancer, de certains cancers gynécologiques, parce que ce sont les cancers très fréquents, notamment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, il est fréquent dans notre pays et le plus souvent diagnostiqué tardivement, mais la cause jusqu'ici identifiée comme étant responsable de ce cancer est un virus. C'est un virus qui a été identifié comme étant responsable de ce cancer. Et c'est un cancer qui, lorsqu'il est diagnostiqué tôt, peut être traité, peut être guéri. Le cancer du sein a des facteurs génétiques qui sont identifiés, mais pas des facteurs, je vais dire, virales, comme le cas du cancer du col de l'utérus.
Justement, restons sur le cancer du col de l'utérus. On se souvient qu'il y a de cela quelques années, le gouvernement a initié une campagne justement de vaccination des jeunes filles contre ce cancer-là. Pourquoi cette campagne? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que ce vaccin justement permet d'immuniser nos enfants contre le cancer du col de l'utérus?
Oui, cette campagne est très importante. Pourquoi? Parce que voyez-vous, le plus souvent, le cancer du col de l'utérus est diagnostiqué de manière tardive chez nos femmes. Alors que si le diagnostic était posé un peu plus tôt, la guérison devait être rapide, d'accord? Mais lorsqu'elles arrivent tardivement à l'hôpital, le plus souvent, le cancer a déjà métastasé. Et là, le traitement est palliatif, la prise en charge est palliative. Voilà pourquoi aujourd'hui, le gouvernement et plusieurs autres formations sanitaires, parmi lesquelles la nôtre, met un accent particulier sur le diagnostic du cancer avant que la patiente ne ressente les symptômes. Donc, je profite pour encourager des mères et des filles à venir à l'hôpital parce que actuellement nous avons un moyen de dépistage du cancer du col qui est par ailleurs gratuit. dans notre structure, dont nous invitons massivement les femmes à venir à l'hôpital Baptiste de Mesquine pour ce dépistage du cancer du col.
Alors, pour le cancer du col de l'utérus, vous avez dit qu'il y a les moyens de dépistage. Pour les autres cancers, à partir de quel signe, à partir de quel signal quelqu'un devrait s'inquiéter et songer justement à aller en consultation?
Ok, merci. De manière générale, le cancer a des manifestations générales et des manifestations spécifiques en fonction de l'organe atteint. Les manifestations générales, il s'agit de la fièvre, de l'amaigrissement, c'est-à-dire que le patient voit qu'il perd du poids, mais il ne comprend pas pourquoi la perte d'appétit est haute. Maintenant, de manière spécifique en fonction des organes, nous pouvons avoir, par exemple, le cas du cancer du sein, je reviens toujours, il peut s'exprimer, ou alors le plus souvent, par la présence d'une boule au niveau du sein de la femme. Et en palpant régulièrement son sein, elle peut constater qu'il y a une boule. Et dès qu'elle constate la présence d'une boule, aussi petite que la boule soit, elle doit se rendre à l'hôpital.
Ça, c'est pour le cancer du sein. Et pour les autres, quelqu'un qui a un cancer du côlon, par exemple, à partir de quel signal il devrait s'inquiéter?
D'accord. Le cancer du côlon, le plus souvent, se manifeste par des troubles digestifs. C'est-à-dire qu'il peut avoir une alternance entre la diarrhée et la constipation. Le patient va se rendre compte qu'il peut être constipé pendant 5 jours, 10 jours sans faire les selles. Et après un moment, il constate qu'il a une débâcle diarrhée qui s'arrête brusquement et puis la constipation refait surface. Ça peut être associé à des sensations de gêne dans la digestion. Le patient se sent vraiment gêné après avoir mangé, a l'impression qu'il ne digère pas les aliments, a l'impression qu'il a des nausées, d'accord? Voilà certains signes qui doivent faire suspecter un cancer digestif. Ou même alors, lorsqu'il fait les selles, on peut avoir la présence de sang ou des traces de sang dans les selles. Donc voilà certains signes qui peuvent lui donner de suspecter la présence d'une tumeur digestive et de venir à l'hôpital.
Alors docteur, de manière générale, on appelle, alors on qualifie le cancer de tueur lent. Parce qu'effectivement, on se rend souvent compte qu'on a un cancer lorsqu'il s'est fait déjà un peu tard. En dehors du cas spécifique que vous venez d'expliquer, celui du cancer du côlon, celui du cancer justement du sein, est-ce qu'il n'y a pas d'autres signes généraux qu'on pourrait observer et se dire là tiens, il faudrait que j'aille rencontrer un oncologue?
Ok, merci. Les signes généraux, ce sont les signes que je venais de vous expliquer. Je reviens en précisant qu'il s'agit de l'amaigrissement. C'est-à-dire que le patient perd le poids de manière progressive et c'est un amaigrissement chronique. Il va se rendre compte que depuis un mois, depuis deux mois, il est en train de fondre, mais il ne comprend pas pourquoi. Il va se rendre compte que de temps en temps, il fait des fièvres. Il est allé à l'hôpital, on a fait un bilan infectieux, mais on n'a pas trouvé de quoi est-ce qu'il souffre. Il perd de l'appétit ou maintenant, en fonction de l'organe atteint, il peut avoir d'autres signes. Par exemple, s'il souffre peut-être d'un cancer du poumon, il va tousser. Ou alors, il peut tousser avec du sang, d'accord? Ou il peut être gêné dans sa respiration, dans sa marche. Donc, le patient doit retenir que devant tout signe chronique d'amaigrissement, de fièvre, ou devant des signes spécifiques tels que la toux, une boule qui sort à n'importe quel niveau de l'organisme, il doit se rendre à l'hôpital.
Alors docteur, en dehors de ces symptômes ou signes alarmants, est-ce qu'il y a d'autres symptômes qu'on pourrait qualifier de plus durables dans la mesure où le patient sait déjà qu'il est souffrant de cancer? Est-ce qu'il y a d'autres manifestations concrètes de la maladie en dehors de ceux que vous venez de lister tout à l'heure?
Je vais dire, il y a des manifestations plus spécifiques qui sont diagnostiquées au niveau biologique. Et parmi ces manifestations, on peut avoir des infections qui surviennent, on peut avoir une anémie qui, avec le temps, peut devenir sévère et nécessiter, pourquoi pas, une transfusion sanguine. Okay? Et maintenant, cliniquement, le patient peut avoir une atteinte d'organes qui fait qu'il est vraiment gêné. Par exemple, un patient qui souffre d'un cancer de la tête et du cou, d'accord, il sera gêné parce qu'il y aura une protrusion très importante de la tumeur au niveau de son cou, qui, avec le temps, peut s'ulcérer, donner des plaies et autres. Vous voyez, c'est vraiment gênant pour le patient. où le patient peut être totalement alité parce qu'il souffre d'une paraplégie due peut-être à une métastase médullaire, soit de son cancer du sein, soit de son cancer de la prostate. Il peut avoir des maux de tête très sévères au cas où le cancer a déjà métastasé au niveau du cerveau, des maux de tête invalidants. Donc voilà un peu approfondi certaines manifestations du cancer.
Merci docteur Ngono pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs justement prennent note et qu'ils vont faire l'effort d'être dorénavant plus attentifs à l'évolution de leur santé ou alors au moins des signaux inquiétants qu'ils peuvent percevoir ou ressentir. Alors, docteur, dites-nous, quels sont les différents stades d'évolution d'un cancer? On sait que généralement, ça ne vient pas d'un coup. Il y a une certaine évolution. Comment est-ce que vous, médicalement, scientifiquement, vous étudiez l'évolution d'un cancer?
Ok, les stades d'évolution dépendent de ce que je vous ai expliqué à l'entame. Je vous ai dit, les organes sont constitués dans leur ensemble d'un épithélium disconjonctif. Lorsque le cancer atteint l'épithélium, il va se multiplier, mais ne va pas rester à ce niveau. Il va attaquer la membrane basale, qui est la couche intermédiaire entre l'épithélium et le tissu conjonctif. Et avec le temps, il va s'étendre au tissu conjonctif et arriver dans les vaisseaux. Et dès qu'il attaque les vaisseaux, en ce moment, il peut librement circuler et arriver soit vers les organes avoisinants, soit vers les organes à distance. En ce moment, on parle de métastase. Donc, en fonction de du niveau d'atteinte, on peut donc classer cliniquement le cancer. En fonction du niveau d'atteinte, en fonction des organes avoisinants touchés et en fonction des métastases à distance, on peut classer cliniquement le cancer.
Donc il n'y a pas une échelle justement de classification. Est-ce que vous avez expliqué à quel moment est-ce qu'on parle de stade 1, on parle de stade 2, on parle de stade 3?
Ok, le plus souvent la classification TNM dont vous venez de l'évoquer tient compte du niveau d'extension clinique. Je prends par exemple le cas du cancer du sein. Le stade 1, c'est lorsque le cancer est limité, n'est-ce pas, au niveau du tissu primitif et lorsque la taille ne dépasse pas, je crois, plus de 2,5 cm de diamètre. Et maintenant, lorsque la taille est inférieure à 5 cm de diamètre, on parle de stade 2. Entre 5 et 10 cm de diamètre, on parle de stade 3. Mais dès l'instant où, par exemple, le tissu avoisinant est atteint, ou alors il a plus de 10 cm de diamètre, on parle de stade 4. Et maintenant, si à côté de cela, on a un ganglion qui a été touché à côté de la tumeur, on peut le classer soit, on peut dire qu'il est N1 ou N2 en fonction du ganglion atteint. Et maintenant, si on a une métastase à distance, on peut dire qu'il est M1, M2 ou MX. Bref, ce que je voudrais que l'auditoire retienne, c'est qu'il est important de venir se faire consulter tôt lors de la présence du moindre signe qui peut faire suspecter un cancer.
Amis auditeurs, avant de poursuivre cet entretien, je vous invite à écouter le témoignage de deux dames, l'une souffrant du cancer du sein et l'autre d'un cancer à la cuisse et qui suivent actuellement une chimiothérapie dont les résultats sont plutôt optimistes. Écoutons-les.
Yo, Indi, en palmata. Yagwa, Lubikana, Tchapane, Didina Vani, Wat Goba, Kugalun, Kokomi Watadi, Kan, Jodi Vanitan. Nyaw kam na je ude je enduro on ko fuddido kam je aran mando be wadino butido wadino kotema le bitatina bannina banni be seki lori fuddidi fuddidi man bo de wadi le bidi ni kadi bo lori fuddidi lori fuddidi kadi bo buti si waddu go jotta kam kai banni kam min kam koko mi fami bana mi matata en kam an kam mi lari do buuti banni tan ha do endudo amma mi do huwa kugal am mi walaki koko o mi walai banni man ni do buuti min bo arano kam mi jogirai dum bana hunde teddum mi do wi'ai do kam ko bana mi modi lekki banni man sankitan si banni man bo sankitai do besta suis de besti ou de man milari ou ti suis mi safti banni mi dili l'hôpital de mi yei l'hôpital velari ha mina ya guaman de milari ha marta dello si bebe se se be seka banni on si be seki kadi kai mi banni kam me dai nanu go kam min kam beron via bo amma me dai largo amma wodi banni de bo fere bo banni aran be seki endi ma ko kanko kam ya kiman do nasara endo huwa baji banni man uti be seki kanko bo bingel ma yottiti odo be redu be seki endu ma ko man kanko bo banni banni man ni bana haire banni be itti yo waje ma ko do ya kiman nasara endo huwa be itti do be seki do be acci banni ha wadi yalde noyna be lori be nyoti be seki do be do lalla be do lowa lekki ayya ke je nasara en do huwado banni de be do lalla banni si ba ton go si banni be nyoti de be nyoti ni banni kanko kam je mako do banni joti o banni timmi amma bawo don do je amdo kam bawo don je hami ya hospital do bawo don do fuddi don nawa yam fuddi don nawa sedda sedda o fuddi don nawa don na mi wi'a kai hunde dum do jodi be man mi anda mi do yila mi do nyama mi do yara amma tawi hunde do fuddi don nawa bawo do mi wi kai mi do jamu sare mi dikka mi ya hospital si mi yai hospital be laari be wi kai do sei be seka be itta banni be seki be itti do kam si wala ko mi mati do ya mi wada pansi man man banni a timmi wadi dede lebbi didi non mi nani mi laari ba en do buuti atton mi ciyo do kam hunde do je nane do de lori fuddi banni mi yei hospital be laari ni non gorko lo e docteur man wi o do kam banni man do ka je aran man ni fuddi do kam ha o yama do don ha dekki man don ha garwa no ni o wi yake man do be seki do kambe bo be wadi hunde gotel be no be wadan no examen man be yara gorko man bo wi kanko docteur man yecci bani o kanko bo yo wadai amma yake man do foti no wi o wada amma kanko bo o wadai o wiyam yo amma je takande lori fuddi do takam sai o yama to yami do min dilla ko ha gaundere toy min dilla o yaman si banni o hebay lamba goddo man de o hebay man bo banni min safti min dilla a l'hôpital central je ya gwa fayn je o fayn min yeya ton man bo docteur man fayn laari bo wi kanko man bo sekan fayn min lorti banni ha be wadi dabare ha be seka kadi bo be nani je ha mon do be wi kai lekki man don ha do be wara to be wari do ha docteur mangado to laari do dume fu kanko ka o andi o yeccan si o wi banni lamba man bo hokki mo lamba man bo yo ewnan docteur man jotta docteur je medecin je mi yeyno ama ko do ha mon do banni du je mi warno ha mon man do yo banni kugal man fuddiri kadi lekki man kanana naval eno gasedi didina jotta kana o wi tim kai sanji be boddum maji takana yake je arando yake mando je aranje mi hosata lekki mando na mi don an kana mi don mata hunde man bana do besta do bude man do besta amma jotta de mi fuddi am mi wari haddo be do tufammi do banni sui dari banni da jotta ma debbo fere don ha ya gwaano kanko bo fuddi bana jam o fuddi no pete ni jotta do warti de ni jotta to mi lori do sei mi yeccamo nyande do ma o wari ha am o tawayam mi wari ha mon do jotta do to mi lori do mi yeccamo jotta kam kanko bo wara fudda kugal man haddo
Manon, c'est Fatima Abdelrahman.
Vous avez quel âge?
40 ans déjà.
Vous vivez où?
À N'Djamena là-bas, au Tchad.
Qu'est-ce qui vous amène ici à Maroua?
J'ai malade.
Vous souffrez de quoi?
Maladie de cancer. Le cancer là, c'est ici, à la cuisse.
Votre maladie a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé?
Les maladies ont commencé là. Quand les règle, c'est bien là, je sens ma cuisse là, je sens ici les douleurs, ça fait mal aux cuisses là. Dernière fois là, il fait comme une boule comme ça. Je vais à l'hôpital là-bas, à N'Djamena. Ils ont dit que ça là, on va opérer. Ils ont opéré une année, en 2020. Ça va un peu, je marche et j'ai parti à mon école et je reviens encore il va commencer, je sens mal. Petit à petit qu'il va gonfler. Je vais à mon docteur, je dis que mon jambe là est commencé de gonfler là. Il a vu, il dit que quand on a opéré là, on sort une kyste dans les jambes là. La kyste là, on a pas des appareils comme on voit vie pour voir que va être un cancer ou non. Ça là, on va opérer pas ici encore. Quand il va à l'hôpital comme au Khartoum là-bas, ou bien à Cameroun, ou bien à Masir, ils ont des appareils grands pour voir. J'ai choisi que cours à moi, à Maroua. Je reviens, je vois le docteur Mikola, le chirurgien. Il fait voir, je fais avec lui là, comme je reste un mois comme ça, ici. Ils ont fait les examens, tout, et petite opération de biopsie à Garoua là. Alors, ils ont dit que ça là, ça va être c'est un cancer. On va faire le traitement. Le traitement là, on va faire là jusqu'à 6 fois. Maintenant, j'ai fait un, ça là, c'est pour la deuxième fois. C'est ça.
Actuellement, comment est-ce que vous vous sentez? Vous sentez qu'il y a une amélioration? Ça va mieux?
Ça va mieux qu'avant. Mais maintenant, c'est deux fois seulement. Là. Ce n'est pas des sangs, mais un peu mieux.
Vous venez prendre votre traitement ici quand? Chaque mois, chaque semaine?
Trois semaines. Chaque 3 semaines, on va faire le traitement, le chimio.
Merci beaucoup et bonne guérison.
Merci à toi.
Fidèle auditeur, vous êtes toujours sur la 105.5 MHz sur Radio Séré, à l'écoute de l'émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Nous tenons à remercier particulièrement Mesdames Falmata et Fatih Abdourahmane pour leur témoignage courageux et nous leur souhaitons une prompte guérison. Alors, docteur Michel Barbarangono, nous venons là d'écouter ces deux patientes qui sont soignées dans votre formation sanitaire. Dites-nous, lorsqu'un patient vient chez vous et que vous lui diagnostiquez un cancer, comment se passe sa prise en charge?
La prise en charge du cancer, elle est vraiment multidisciplinaire. Elle est multidisciplinaire. D'abord, je voudrais préciser que le diagnostic du cancer est en plusieurs étapes. D'abord, il est suspecté. Ça veut dire que cliniquement, le patient arrive, il présente des signes. Et l'on voit que ce sont des signes qui ressemblent et qui sont hautement suspects de cancer, mais il doit être confirmé. Et la confirmation du cancer est anatomopathologique, est histologique. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois prélever un tissu de la tumeur, envoyer pour examen au laboratoire. C'est après cet examen-là qu'on pourra premièrement confirmer le cancer. Deuxièmement, décrit même la carte d'identité du cancer, c'est-à-dire dire si c'est un cancer qui se multiplie rapidement, que l'on appelle au grade. Troisièmement, identifier les différents types de récepteurs du cancer et savoir même quelle est la thérapie qui pourrait marcher avec ce cancer. Donc, l'histologie occupe une place de choix dans la confirmation de cancer et même dans le pronostic, la détermination du pronostic du cancer et des éventuelles thérapies du cancer. Bon, maintenant, une fois que le cancer a été diagnostiqué, on doit le classifier, on doit pouvoir établir le stade du cancer. Et maintenant, en fonction du stade du cancer, la prise en charge est différente. Ce que nous devons retenir, c'est que pour les cancers qui sont déjà avancés, l'objectif du traitement est essentiellement une palliation. Ça veut dire qu'on accompagne le patient dans la prise en charge. Il n'y a plus un traitement curatif à faire. parce que le cancer est avancé. Maintenant, pour les cancers qui sont à leur début ou qui sont dans les phases intermédiaires, tout dépend maintenant de son extension. Si la tumeur est encore à un stade local, en ce moment, on opte pour une thérapie locale comme la chirurgie, où on va venir enlever la tumeur avec des marges de sécurité et même enlever les ganglions avoisinants. Maintenant, la tumeur peut ne pas avoir métastasé, mais localement, elle est plus ou moins avancée et ne permet pas d'effectuer une chirurgie, par exemple. En ce moment, on va opter pour des thérapies néoadjuvantes afin de réduire la taille du cancer et de permettre qu'une chirurgie s'effectue. C'est le cas, par exemple, de la chimiothérapie, c'est le cas de la radiothérapie. Et maintenant, pour des cancers déjà avancés, la prise en charge est différente. En ce moment, il faut utiliser des substances, des produits qui vont agir à la fois au niveau de la tumeur et aussi au niveau des métastases. Il y a plusieurs thérapies. Nous avons la chimiothérapie qui touche directement les cellules. Nous avons la thérapie ciblée qui touche les vaisseaux qui entretiennent la croissance des cellules. Nous avons l'immunothérapie qui vient booster le système immunitaire et permettre qu'il combatte les cellules. Donc voilà, nous avons même l'hormonothérapie qui agissent au niveau des récepteurs hormonaux de ces cancers.
Docteur, restons justement sur ces différentes thérapies que vous venez de citer. Quels sont les avantages et inconvénients de ces différentes thérapies? Quand on sait que généralement les patients qui subissent, je prends le cas par exemple de la chimiothérapie, se plaignent d'une flopée d'effets secondaires. Quels sont les avantages et inconvénients des différentes thérapies auxquelles on fait recours justement pour prendre en charge un cancer?
Ok. Je préfère d'abord, pour le bien de l'auditoire, dire qu'il est toujours bon de se faire prendre en charge. Il est toujours bon de se faire prendre en charge. J'insiste dessus parce que dans l'idée que l'on se fait du traitement des cancers, c'est que le traitement du cancer peut tuer, ça peut t'affaiblir, ça peut. Bref, il y a beaucoup d'idées qui sont dissipées et qui font que les patients se retiennent à débuter le traitement des cancers. Non, ça ne doit pas être ainsi. Quel qu'en soit le niveau de votre cancer, quel qu'en soit le type de thérapie qui vous est proposée, vous devez vous faire accompagner dans un centre qualifié pour prendre en charge les personnes souffrant de cancer. Et je profite pour dire que dans notre structure, c'est le cas. Maintenant, pour revenir à votre question, quels sont les effets secondaires et tout? Beaucoup d'effets secondaires. La chimiothérapie, par exemple, peut entraîner une faiblesse généralisée. La chimiothérapie peut entraîner des troubles digestifs tels que la diarrhée, des vomissements. La chimiothérapie peut entraîner des troubles au niveau des fanères tels que la perte des cheveux. La chimiothérapie peut entraîner des anémies ou alors peut même rendre l'organisme susceptible à des infections. Mais ne vous inquiétez pas. Tous ces effets secondaires, lorsque les différents cycles sont terminés, tous ces effets secondaires finissent par passer. Et maintenant, ceux qui vous prennent en charge sauront quand est-ce qu'il faut arrêter et sauront même qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces effets secondaires ne soient pas très intenses et ne vous dérangent pas trop. Parce que c'est aussi ça qu'il faut souligner dans la prise en charge des patients cancéreux. C'est d'éviter qu'ils souffrent beaucoup. C'est d'éviter qu'ils aient trop mal. Donc, en plus des médicaments de chimiothérapie ou d'immunothérapie ou d'hormonothérapie que vous recevez, il y a des produits, il y a tout un conseil, il y a des... Voilà, un counseling qui est fait et même des médicaments qu'on vous donne pour pouvoir limiter l'intensité de ces effets secondaires.
Merci, je retiens particulièrement votre premier conseil. Il ne faudrait pas, sur la base justement des « on a dit », avoir peur de se faire prendre en charge lorsque justement on a un cancer. Au contraire, on augmente ses chances de guérir. D'où ma question, docteur, est-ce qu'on guérit du cancer? Est-ce que le cancer se soigne?
Je répondrai oui. On peut guérir du cancer, oui, parce que beaucoup de patients se disent « non, le cancer ne se guérit pas ». Je dis « non, le cancer peut se guérir ». tout dépend du stade au moment où l'on diagnostique la maladie. Si le cancer est diagnostiqué tôt, ça peut se guérir, d'accord? Et tout dépend de la nature du cancer. Donc voilà, le cancer peut se guérir.
Avant d'entrer justement dans ce studio, j'ai discuté avec une collègue qui laissait entendre que, d'après ce qu'elle a comme information, ici dans notre région, la plupart des patients à qui on a diagnostiqué un cancer finissent par perdre la vie. Je suppose que la raison étant que, généralement, ils se font diagnostiquer dans un stade déjà très avancé. Que dites-vous par rapport à ça? Est-ce que ici, parmi vos patients, vous réussissez quand même à avoir quelques-uns qui se font prendre en charge suffisamment à temps et qui parviennent à une guérison ou une instabilité?
C'est vrai, il faut encore préciser, la plupart des patients souffrant de cancer viennent dans des stades très avancés. Et vous voyez, quand on vient dans un stade très avancé, le pronostic à 5 ans, à 10 ans est très faible. Donc, que vous soyez sous traitement ou pas, le pronostic de la guérison est déjà réduit. D'accord? Mais maintenant, pour des patients qui viennent à un stade précoce, il est effectivement possible qu'ils soient guéris. Qu'ils soient totalement guéris. Et même pour des personnes qui viennent à un stade avancé, la prise en charge palliative peut aider considérablement à les soulager des douleurs, des gênes, du mal causé par le cancer et leur permettre d'avoir une qualité de vie acceptable où ils sont épanouis avec leur famille, avec les enfants, les parents. Donc voilà, la prise en charge du cancer est toujours idéale lorsqu'elle s'effectue dans un milieu adapté, dans un milieu compétent. Le patient a toujours des avantages à se faire prendre en charge, à accepter, parce que c'est aussi là le problème, je vais dire, de compliance. Il y a des patients qui ont du mal à comprendre, ont du mal à accepter qu'ils ont le cancer. À ces patients, nous disons non. Vous devez accepter que vous avez le cancer. Ce n'est pas une fatalité. Et vous pouvez vivre du cancer. Vous pouvez vivre, vous pouvez travailler ayant une pathologie cancéreuse. Vous pouvez être épanoui et prendre en charge vos enfants avec une pathologie cancéreuse. Le plus important, c'est de vous faire prendre en charge. Lorsque vous êtes accompagné, toutes ces lourdeurs, toutes ces difficultés que vous ressentez finissent par tomber et vous avez plus de chances de faire plus de jours sur la terre, plus de semaines, plus des mois sur la terre. Parce que la thérapie que l'on vous présente, que l'on vous donne, peut bloquer, peut réduire l'évolution de la maladie. Donc voilà.
Alors, docteur, nous sommes en Afrique, nous sommes à Maro, à l'extrême nord, une région aux potentialités multiples, notamment en ce qui concerne la médecine traditionnelle. À votre connaissance, existe-t-il des alternatives à la médecine moderne pour soulager ou soigner le cancer?
À ma connaissance, non. Au contraire, tous les patients qui ont été diagnostiqués, je parle de ce que je connais, tous les patients qui ont été diagnostiqués du cancer et qui ont opté initialement pour une thérapie entre guillemets traditionnelle, sont revenus 2 ans, 3 ans après à des stades très avancés. Donc, de grâce, lorsque vous êtes diagnostiqué, lorsque les patients, les personnes sont diagnostiquées d'un cancer, je vous en supplie, soumettez-vous au principe que la structure vous propose pour vous faire prendre en charge. Ne fuyez pas. Même si vous n'avez pas les moyens, venez, même si vous n'avez pas d'argent, il y aura toujours une solution qui sera trouvée pour vous aider.
Alors, docteur, tout à l'heure, on évoquait déjà la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. En dehors de ça, est-ce qu'il existe un vaccin efficace, disons de manière générale, contre le cancer? Où en est la recherche dans ce sens-là?
Merci. Je précise, il ne s'agit pas d'une campagne de vaccin contre le cancer du col de l'utérus, non. Il s'agit de moyens de dépistage gratuits que nous mettons à la disposition des femmes pour le cancer du col. Voilà pourquoi j'en appelle encore ici à la conscience des femmes, mais aussi des époux, des parents, d'encourager leurs filles, d'encourager leurs femmes, d'encourager leurs sœurs à venir massivement pour les dépistages du cancer du col. Maintenant, parlant de vaccins, effectivement, il existe un vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui, lorsqu'il est effectué tôt, notamment chez les jeunes filles, a démontré son efficacité de plus de 70%.
En dehors de ce cancer-là, est-ce qu'il n'y a pas des recherches qui sont en cours justement pour les autres cancers en termes justement de solutions vaccinales?
J'ose croire que la science ne se lasse pas de rechercher des solutions parmi lesquelles les vaccins pour les cancers. Mais à ma connaissance, il n'existe pas beaucoup de vaccins contre les cancers. La plupart des solutions proposées à l'heure actuelle pour la thérapie des cancers sont des thérapies curatives.
Alors, docteur, la question, je suppose que tout le monde doit attendre à l'heure où nous parlons. Comment éviter le cancer?
Comment éviter le cancer? Nous revenons toujours aux facteurs de risque de cancer. Pour les patients qui ont des facteurs de risque ou alors des anomalies génétiques, ils sont hautement à risque de cancer. Donc, il n'y a pas quelque chose de précis qu'on va leur dire pour pouvoir éviter le cancer. Maintenant, pour des cancers qui sont induits par des facteurs environnementaux, il est possible d'éviter certains cancers. On a pris l'exemple du cancer du cavum ou des cancers de la tête et du cou qui ont pour facteur de risque principal le tabagisme. Donc, vous pouvez éviter un cancer du cavum en refusant de fumer. Le cancer du poumon, par exemple, qui est le plus souvent induit par le tabac, vous pouvez l'éviter, bien que ça peut survenir. Vous comprenez, mais plus que c'est le facteur principal qui a été identifié comme inducteur du cancer du poumon, vous pouvez l'éviter, d'accord? Nous avons évoqué l'alcoolisme qui peut prédisposer hautement un cancer du foie. Il y a certaines maladies infectieuses qui prédisposent à des cancers. Nous avons cité le Human Papillomavirus, par exemple, responsable ou alors identifié comme étant le principal facteur de risque ou même cause de cancer du col de l'utérus, d'accord? Donc, des femmes qui n'ont pas une activité sexuelle précoce, par exemple, ou alors qui ont une certaine hygiène de vie sexuelle, peuvent l'éviter, à moins que étant mariées, les maris ont déjà ce virus. Mais nous précisons aussi qu'il y a des virus qui ne sont pas forcément sexuellement transmissibles, qui sont orotransmissibles ou alors qui sont même transmissibles par des liquides biologiques comme le virus de l'hépatite B. Quand même le Human Papillomavirus responsable du cancer du col de l'utérus, le virus de l'hépatite B, par exemple, se transmet par la plupart des liquides biologiques, la salive, la sueur, le sperme, le sang. Donc voilà, il y a des événements, des situations que l'on peut éviter pour se mettre à l'abri, peut-être pas total, mais à l'abri de certains cancers.
Sur le facteur justement alimentation, quelle alimentation et quelle hygiène de vie faut-il avoir? Je ne vais pas dire pour ne pas avoir de cancer, mais au moins pour freiner justement l'évolution d'un cancer une fois qu'on a été diagnostiqué comme étant porteur de cancer.
Déjà, lorsqu'on était diagnostiqué comme étant porteur de cancer, l'alimentation occupe une place de choix. Et surtout lorsqu'on est soumis à des thérapies telles que la chimiothérapie. Premièrement, il faut une bonne hygiène de vie, d'accord? En se lavant régulièrement les mains, surtout lorsqu'on est sous chimiothérapie, il faut se laver les mains. Après d'être venu par exemple des toilettes, il faut se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Il faut éviter d'être en contact très permanemment avec des personnes infectées, de risque de se faire infecter facilement, puisque déjà avec le cancer, nous sommes immunodéficients, d'accord? Et maintenant, d'un point de vue alimentation, il faut boire beaucoup d'eau. même pour les personnes immunocompétentes, les personnes chez qui le cancer n'a pas été diagnostiqué, il faut boire beaucoup d'eau, il faut beaucoup s'hydrater, il faut consommer des aliments riches en fer, tels que les œufs, le foie et autres. Il faut aussi consommer beaucoup de fibres, d'accord? Parce qu'il était démontré qu'une alimentation pauvre en fibres prédispose à la survenue de certains cancers digestifs. D'accord, dans notre contexte, nous avons des aliments très riches en fibres, le gombo, le houlahada, le foléré, beaucoup d'aliments qui peuvent aider à éviter, pas totalement, je dis encore, parce que le risque reste toujours. Même quand on a évité tout cela, il y a toujours un faible risque, mais déjà en évitant ou alors en ayant une certaine hygiène de vie, on réduit le risque de survenue de certains cancers.
Docteur Michel Barbara Ngono, Radio Série vous remercie d'avoir accepté son invitation.
Merci, le plaisir était pour moi.
Amis auditeurs, c'est déjà la fin de cette autre édition de Santé pour tous qui a fait un focus aujourd'hui sur le cancer grâce à l'expertise du docteur Michel Barbara Ngono, médecin généraliste en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Que nous remercions une fois de plus de s'être prêté à cette émission pour vous entretenir et vous sensibiliser. Que retenir donc de cette émission qui s'achève? Sinon que le cancer est certes une maladie foudroyante, mais contrairement aux idées reçues, le cancer se soigne. On peut en guérir, surtout si on est pris en charge très tôt. Pour cela, il faudrait au moindre signe alarmant se rendre dans une formation sanitaire pour se faire dépister. Donc, si vous ou l'un de vos proches remarque un amaigrissement chronique associé à la perte d'appétit, une boule dans le sein ou à n'importe quel endroit de l'organisme, ou encore une toux chronique, ne perdez plus de temps, allez à l'hôpital. Une fois qu'on vous a diagnostiqué un cancer, acceptez de vous soumettre et de suivre correctement le traitement qui vous est prescrit. Aucune solution traditionnelle ne peut vous soulager et vous guérir. Au contraire, cela risque d'aggraver votre situation. Dans le registre de la prévention du cancer, il est recommandé de réduire ou de supprimer les facteurs de risque suivants. Éviter le tabagisme, y compris les cigarettes et le tabac sans fumer. Adopter un mode de vie sain. Opter pour une alimentation saine composée de fruits et légumes. Pratiquer une activité physique régulière. Limiter la consommation d'alcool. Se faire vacciner contre l'hépatite B et le virus du papillomavirus humain. Réduire l'exposition aux rayons ultraviolets et aux rayonnements ionisants. Éviter la pollution atmosphérique urbaine et la fumée intérieure provenant de l'utilisation domestique des combustibles solides. Et se faire examiner régulièrement par un professionnel de la santé. Précisons pour finir que dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer, il est prévu la construction d'ici 2024 de l'Institut national du cancer, dont l'objectif est de réduire la morbidité et la mortalité due au cancer en vue d'atténuer son impact socio-économique sur le développement du pays. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Nicole Massaï à la réalisation, Marc Chinot à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Santé pour tous. D'ici là, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.